C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Il existe au cœur du Limousin, dans la grande verdure, les lacs et les collines, un festival. C'est un genre d'Avignon du conte, un lieu où une bonne partie des professionnels et amateurs de conte se rencontrent en été. Entre les chapiteaux, la cantine et la billetterie du festival, c'est ici qu'on peut croiser, presque tous les ans, le chemin de la famille Audigan. Angel, avec sa Mercedes, lieu de spectacle et aussi avec son personnage Anna Blavitskaya, divine voyante de bonne aventure, avait pas mal intrigué Armel et Pepo. De son côté, Angel avait très envie de faire leur connaissance. C'était l'occasion. Dans cette rencontre, il est question de parcours d'artiste, mais quand dans l'entretien on s'est mis à parler cartes et tarots, l'enregistreur s'est mystérieusement mis en panne. Ces paroles-là n'ont donc pas été capturées, mais restent vivantes ailleurs, et c'est comme ça. Un instant Zigane, donc, avec Armel et Pepo Audigan.
Armel ?
Oui ?
Pepo ?
Oui, c'est moi.
Audigan ?
C'est cela.
Tous les deux ?
Oui, tout le temps.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Angel.
Eh bien, on est donc à Vassivière, ouais. dans votre coin, là. Vous avez installé un...
ouais, dans notre espace.
Notre lieu. Il y a du parquet, ouais. Il y a un tapis dessus, il y a des fauteuils, il y a des gradins, des bancs, ouais. Et une caravane en fond. Ouais. Notre caravane.
Ouais. Et toi, tu étais jusqu'à maintenant dedans en train de...
de faire des lectures de tarot. Mais toi aussi, tu en fais des lectures de tarot.
Je te raconterai après.
Ouais. Ah,
donc vous êtes conteurs tous les deux.
Oui,
mais... musicien-conteur, mais musicien.
Ouais, tout le monde dit qu'il est conteur hein, quand bah, il le nomme. C'est ça. C'est ouais, ça. Ouais.
Toi, t'es conteuse.
Oui, moi, je suis conteuse. Ouais.
Depuis toujours ou bien vous avez fait autre chose avant?
Ah, moi, depuis mes 7 ans, je suis musicien. Ouais. Donc, j'ai rien fait d'autre. Je sais fabriquer des roulottes, ouais. Voilà, des tarots, puis voilà, c'est tout.
C'est pas mal déjà. Depuis 7 ans, tu faisais...
Depuis l'âge de 7 ans, oui.
Tu as appris quoi comme instrument?
Le premier, c'est la guitare.
La guitare. Voilà.
Après, c'était les flûtes, l'accordéon et multi-instrumentiste.
Est-ce que tu es d'une famille de musiciens?
Mon grand-père joue la mandoline. Ouais.
Voilà. C'est lui qui t'a appris ou bien...
Non, pas du tout.
Comme ça?
Ouais, comme ça. Ouais. J'ai appris en regardant, en écoutant les autres.
T'avais l'idée que ça serait ton métier?
Ça s'est fait naturellement. Moi, je n'avais pas l'idée, en fait. C'est comme ça, ouais, ouais. Je pense que c'est une chance, mais voilà.
Et toi, tu racontes depuis toujours?
Alors, on peut dire comme ça, j'aime bien. Ce n'est pas tout à fait la vérité, mais c'est quand même comme ça que ça a commencé. Depuis toute petite, je racontais tout ce que je voyais. Je me parlais toute seule. Je me revois bien sur les chemins, parler de l'herbe est verte, trouver le bon mot. Moi, ma mère m'a mise à l'école parce qu'il fallait parler français. Dans chez moi, on ne parlait pas tous. Mon père parlait français, mais ma mère, ma grand-mère ne parlait pas. Ma mère parlait français, mais elle parlait aussi polonais et russe. Donc pour moi, j'étais née en France, il fallait que je parle français, enfin j'allais à l'école française, l'intégration. Ouais. Donc j'ai découvert la langue française et c'est vrai que c'est une très belle langue.
Ça t'a plu ?
Ça m'a plu et donc je cherchais le mot exact sur tout ce que je voyais. C'était ma façon de raconter. Et puis après, ben, quand je suis venue au conte, en
comment
fait...
Comment ça s'est passé ?
Ben, c'était pas tu, le tu conte au départ.
Tu savais que c'était un métier, par exemple ?
Non. Je voulais être dans la parole. Alors au début, la première parole qui vient sur scène, c'est le théâtre. Donc j'ai fait un essai avec une troupe de théâtre, parce qu'à l'école, il y avait la troupe de théâtre du lycée, tu vois. Et puis bon, c'était les copines. Puis après, je suis sortie et j'ai dit, bon, je vais aller voir ce qu'il y a d'autres troupes de théâtre. Mais là, ça m'a vite désolée, en fait, parce que je ne devais pas être dans le bon groupe non plus, mais ce n'est pas ce que j'attendais. On me disait de faire comme ça ne me plaisait pas, je voulais avoir une autre interprétation, le mot me gênait, là, je trouvais qu'il ne sonnait pas bien, donc j'ai dit j'arrête. Ouais. Et je me suis tournée vers la poésie. Oui. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de cabarets poésie sur la nouvelle francophonie. Donc il y avait des poètes de toute la francophonie et des cabarets. Et ce que je faisais, c'est que je recevais les livres de poèmes des invités, je choisissais les poésies et je les lisais.
Comment ça se fait que tu recevais les livres des invités ?
Parce que mon père et un ami de mon père faisaient partie d'un comité de francophonie.
D'accord.
En Bourgogne, où j'ai grandi. Et tout naturellement, on m'a dit, tu veux faire ça ? Enfin, ça s'est fait. J'étais dans les réunions, ben moi, je veux bien le faire. Et là, j'ai eu des moments privilégiés d'échange de lettres, parce qu'il n'y avait pas les mails comme maintenant, avec des auteurs du Québec ou du Maroc. Tu vois, on a eu un grand moment de discussion avec Tahar Bekri, et après on s'est rencontrés, donc on s'est retrouvés aussi à une rencontre poétique, et Tahar Bekri nous avait dit, mais le livre de la colombe, je vous l'offre. Comme vous travaillez tous les deux la parole et la musique, vous pouvez raconter mon livre, dire les poésies, quand vous voudrez. Donc on a eu des cadeaux comme ça.
Cet homme-là disait qu'il était arrière, 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 arrière petit-fils de Khan, le chef des plus grands guerriers. Il le disait et il le croyait. Le jour où commence cette histoire, son père le marie à une jeune fille aussi belle que sage. Cet homme-là s'appelle Atiek. C'est le jour du mariage. Tout le campement se prépare. Les hommes s'occupent du feu et nourrissent les chevaux. Les femmes déroulent les tapis aux couleurs vives et installent la belle vaisselle. Les jeunes filles tressent les guirlandes de fleurs et les accrochent aux branches des arbres. Les enfants jouent, rient, crient, dansent. C'est le bonheur qui s'installe. Et sous l'arbre tout décoré, tout garni de fleurs, il y a la roulotte, neuve, brillante, colorée. La roulotte des jeunes mariés. Ils sont tout à côté, fiers, heureux. C'est le premier jour du mariage. C'est le jour des cadeaux et des souhaits. Chacun vient, offre. Et chacun dit, longue vie à toi, Atiek. Et nombreuses descendances. On se serre, on s'embrasse, on pleure, on chante. Quand le soleil se couche, elle, la jeune épouse, elle prend la main de Atiek. Elle monte les trois marches de leur roulotte. Elle pousse la porte. Ils entrent. Elle détache ses longs cheveux. À la petite fenêtre au-dessus du lit, tout au fond de la roulotte, elle accroche son foulard. Elle se couche. Elle l'attend. Lui, il se met assis sur le bord du lit. Il ne regarde pas sa femme. Il ne lui parle pas. Il ne la touche pas. Il soupire. Il regarde un point précis de la porte. Prend son couteau. Il vise. Le couteau se plante exactement à l'endroit choisi par Atiek. Il soupire. Toute la nuit, elle attend. Au lever du soleil, tous les deux, ils sortent de la roulotte. Pour le deuxième jour du mariage. C'est le jour où les mariés préparent le repas. Ensemble, ils font cuire les viandes. Ensemble, ils préparent les légumes. Ensemble, ils font les montagnes de gâteaux arrosés de miel. Ensemble, ils invitent à boire, à manger, à chanter, à danser. Quand le soleil se couche, elle prend la main de son époux. Les marches, la porte, ils entrent. À la petite fenêtre du fond, son foulard, elle se couche. Lui, assis sur le bord du lit, et soupire. Elle l'interroge. Dis-moi, Atiek, je ne te plais pas. Ce n'est pas avec moi que tu aurais voulu te marier. Il se tourne vers elle et la regarde. Tu es belle et désirable. Mais c'est mon père qui t'a choisi pour moi. Moi, je suis arrière petit-fils de Khan. Moi, j'aurais voulu mener des armées au combat pour toi. J'aurais voulu déposer à tes pieds les armes de nos ennemis. Que tu vois dans mon regard briller mon courage d'être un homme. Dis-moi, Atiek, tu m'aimes comme je t'aime. Allons ensemble sur la route. Viens. Mais l'homme ne veut pas entendre ces paroles. Il a dans la bouche des rêves de guerre, de combat, du courage d'être un homme, de se battre, d'être le plus fort. Et il parle longtemps. Elle se redresse, elle l'attrape par le bras. Atiek. Écoute-moi, si tu veux vraiment savoir ce qu'est le courage d'être un homme, tu vas sortir. Va passer la nuit tout seul dehors. Et si tu rencontres les moulets, et si les revenants sont avec toi, alors tu sauras ce qu'est le courage d'être un homme. Va. Atiek est sorti. Au milieu du campement, près des cendres refroidies, il attend.
Un extrait de « Dans la steppe aux mille collines », premier jour de fête. Avec ses contes venus du cœur des croyances tziganes, une épopée festive nous fait entrevoir l'espace d'un instant, l'univers coloré des voyageurs. Saint-Gaël, au festival Parole de Conteur, au bord du lac de Vassivière, rencontre Armel et Pepo Odigan. C'est toujours « C'est pas pour dire ».
Quand tu as découvert cet art-là du conte?
Alors, j'ai découvert d'une façon très pratique. C'est que la poésie, ça ne nourrissait pas. Donc, il fallait faire autre chose. Comme je ne voulais pas être dans le théâtre et je voulais rester seule, donc j'ai commencé à raconter des histoires. Voilà. Mais je n'ai jamais entendu... Je n'avais jamais été voir un conteur, je ne savais même pas si ça existait. Sauf que c'était dans ma logique, je dis des poèmes, je vais raconter...
C'était quand, ça, en gros? On parle de quel genre d'année?
C'était les années 80. Oui, 90, tu vois. Donc, il y avait des conteurs déjà, mais je n'étais pas dans une région où il y en avait. C'était pas... Et puis quand j'ai commencé à raconter, bien évidemment, j'ai levé mon nez, j'ai vu qu'il y avait des conteurs, donc j'ai écouté, parce que c'était le plein renouveau du conte. Mais je n'allais pas les rencontrer, parce que moi, je m'étais dit, mais je travaille une façon, ça se trouve, ce n'est pas ça du tout. Tu vois, cette peur-là. Et puis on s'est rencontrés, et là, on a travaillé le conte et la musique comme on avait envie de le faire.
C'est pas si évident, parce que ça veut dire que vous êtes à la fois un duo de scène et en même temps, vous vivez ensemble. Ça a des avantages sans doute, ça a des inconvénients possibles?
Moi, je pense que ça n'a que des avantages, pas d'inconvénients.
Ok.
Parce que...
Vous n'êtes pas en train de parler de boulot tout le temps?
Ben oui, d'après les enfants, oui.
Faut demander aux enfants.
En fait, on ne répète jamais, on n'a pas de moment de répétition. Quand on parle d'un spectacle, on en parle sur le trajet d'un festival. Et puis on dit, j'aimerais bien mettre ça. Je dis, oui ou non. Et puis je dis, je vais mettre cet instrument-là. Elle me dit, oui ou non. Et puis... souvent on teste en public.
Mais
après, on fait pas la même chose. Elle c'est la parole, moi c'est la musique.
Donc, donc on va pas se voilà, c'est ça. On n'est pas concurrents et puis on va parler ensemble dans les heures de voyage de ces thèmes. Sur chaque spectacle, on a l'intention d'un thème de mener parce que si on fait des spectacles fourre-tout, ça ressemble tout le temps. Donc il faut vraiment que ce soit mis. Qu'est-ce qu'on veut passer dans chaque spectacle et ça se fait naturellement. Et je trouve que c'est un avantage. Parce que, pour le couple, tu vois, quand tu es sur scène, tu vas dire des choses pour le public, on se livre encore autrement, tu vois. On va chercher vraiment ce qu'il y a de plus puissant pour le livrer et on le partage ensemble. Et après, les spectacles, à certains... Bon, pas à chaque fois, mais il y a des moments de magie comme ça, où c'est comme si on se redécouvrait. Tu vois, ah, mais t'as laissé passer ça sur scène, tu vois, il y avait cette petite chose qui n'était pas connue, pourtant ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on a une découverte continuelle, quoi.
Il était une fois un fleuve. Aujourd'hui, c'est un vieux fleuve. Il avance, goutte après goutte, sur la terre aride. Il veut aller de l'autre côté. Il veut passer. Il se force le chemin goutte après goutte. Il va, il insiste. Il continue. Coûte que coûte. Tout près de lui, une voix lui dit qu'il devrait se faire léger, qu'il devrait se laisser emporter par le vent. Le vieux fleuve rouspète, ronchonne et bougonne. Lui, faire confiance au vent, à l'impalpable, à l'indomptable, ce n'est pas possible. Sa vie à lui est faite de rives, de bords tracés, de chemins dessinés. Lui, majestueux, il a traversé des villes. On l'a adoré, aimé, adulé. Lui, Il a traversé des forêts. Et il a été embrassé, caressé par le bout des branches des arbres. La petite voix continue. Se faire léger. Se laisser emporter. Le vieux fleuve devient silencieux. Et tout au fond de son cœur, il retrouve un parfum oublié. Un rêve abandonné. Là, se poser. Lâcher. Se faire léger. Se laisser emporter par le vent pour aller de l'autre côté. La petite voix a dit, de l'autre côté de la montagne, bientôt, une source va naître. Atiek regarde le vieil homme. Le regard perdu dans ses souvenirs. Je suis restée dans la nuit, à côté de ma roulotte, pour protéger ma doubia. Et quelque temps plus tard, le vent est venu se poser sur moi. Un vent fort à m'emprisonner, à me serrer, à m'étouffer. J'ai compris. Un conte était là. Alors je lui ai dit, je vais raconter ton histoire pour toi tout seul.
Dans la steppe aux mille collines, le fleuve. Artiste, c'est un bon endroit pour faire connaissance. La poésie, la musique, ça passe les frontières et ça fait des ponts entre les humains. C'est aussi le propos de Pepo et Armel, organiser la rencontre entre deux mondes, celui des voyageurs et celui des sédentaires. On parle de la naissance du voyage.
Pepo me disait, donc on est là à Vassivière, que ça faisait à peu près 20 ans que vous venez tous les ans.
Oui, ouais, des fois il y a des sauts de puce.
Hein. Voilà. Ici cette année, vous faites l'instant Zygane. Qu'est-ce que c'est?
On raconte la vie des voyageurs, tout simplement, voilà, avec notre vécu. Parce que rien de mieux que de raconter qu'avec un vrai vécu. Quoi. Ouais. Donc on est voyageur, on raconte la vie des voyageurs. On raconte pas des contes africains, ni... voilà. On raconte en fait, en gros, pour faire simple, dans tous nos spectacles, ce qu'on raconte, c'est ce qui nous rassemble avec les gadgets, voyageurs et gadgets, plutôt que ce qui pourrait nous diviser. Voilà, donc on a tous les mêmes besoins, c'est l'amour qu'on a de la famille, les enfants, besoin de se nourrir, de manger, tout simplement.
Oui, il y avait hier... tu disais... Alors, peut-être que vous ne connaissez pas complètement, mais peut-être que... Ou bien, on sait bien comment vous fonctionnez, là, sur la poutre. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait dans ce travail que vous proposez comme une tentative de faire un pont.
L'invitation ?
Oui, c'est ça. Une invitation à découvrir notre culture, à découvrir les voyageurs. On sait que c'est compliqué. Parce que sur les aires d'accueil, ou encore plus, les terrains de voyageurs, ils ont acheté, donc ils ont mis les portails pour être tranquilles, pour ne pas avoir de soucis. Mais on n'est jamais considéré, sauf où on habite maintenant, mais on n'est jamais considéré comme un voisin
normal.
Tu vois, nous, chez nous, là, dans l'Indre, maintenant, ils ont vu arriver les caravanes et les roulottes au début, tu vois. Donc, voilà, un tout petit hameau. Donc, on était venu déjà à un festival avant, mais on est venu avec...
Mais tu dis les caravanes et les roulottes, mais vous êtes combien ?
Nous.
Bah oui.
Non, mais on avait notre roulotte de vie.
Ils ont eu peur.
Ouais, on avait notre roulotte de vie quand on est arrivé, la roulotte Seine. Et une caravane, puis une autre petite caravane Seine, et puis encore une autre caravane, tu vois, on est venu, il y a au moins quatre, tu vois, plus des châssis, plus tout, donc installé dans une vieille ferme, ben, ils ont eu un peu peur. Donc on a rassemblé tout le monde, on a expliqué, et puis on a dit, on est voyageurs, mais on est artistes. Ça, cette carte-là, ça permet de... Voilà, ça permet, c'est un vrai pont, c'est un vrai lien, ça permet de dire vraiment les choses avec douceur, avec la musique, mais en profondeur en même temps. Et ça, c'est irremplaçable.
Quand la terre était jeune, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune et pas d'étoiles. Mais il y avait déjà des hommes, des tribus de voyageurs. Il n'y avait pas de jour et pas de nuit. Et les hommes allaient et faisaient ce qu'ils avaient à faire sans jamais s'arrêter, sans jamais se reposer. Il n'y avait pas de nuit. Il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de sommeil. Un père s'est approché de son fils. Autour du cou, il lui a passé un collier porte-bonheur et lui a dit « Mon fils, te voilà devenu presque un homme. » Et le fils se redresse, fier. Il touche le porte-bonheur, une pierre ronde, lisse, que son père avait trouvée au bord de la rivière. Et le fils, devenu presque un homme, a fait le tour de la tribu. Il a montré. Le collier porte bonheur et tout le monde a compris. Presque un homme. Et tous le saluent. Pour fêter l'événement, il décide d'aller pêcher un poisson qu'ils partageraient ensemble. Le jeune homme a pris sa lance. À l'extrémité du bâton, il a accroché la pierre bien pointue, bien taillée, et s'est dirigé vers la rivière. Il monte sur le radeau. Un coup de pied au bord de la rivière. Il se retrouve au milieu de l'eau. Et il regarde. Il veut trouver le plus beau poisson, le plus gros poisson. Il se penche pour mieux voir. Il se penche encore. Il se penche tellement que le collier porte-bonheur lui passe par-dessus tête et tombe dans l'eau. Il ne peut pas laisser perdre le cadeau offert par son père. Il lâche sa lance et plonge. Le collier s'enfonce dans l'eau. Le garçon plonge plus profondément. Le collier arrive au fond de la rivière. Une porte secrète s'ouvre. Le collier se glisse. Le garçon juste derrière s'y glisse aussi. La porte se referme. Le garçon est arrivé dans l'autre monde. Le monde d'en bas. Il regarde tout autour de lui. C'est comme dans le monde d'en haut. La terre à ses pieds. Des arbres et des feuillages tout autour. Il cherche son collier porte-bonheur et se glisse entre les arbres. Un chemin, il lève la tête. Au bout de ce chemin, un garçon de la même taille que lui. Un garçon qui lui ressemble exactement. Son double, son frère. Le garçon lui souhaite la bienvenue et lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il explique comme il a perdu son collier porte-bonheur, le cadeau offert par son père. Et le garçon du monde d'en bas le prend par la main et lui dit « Cherchons-le ensemble !» Il se glisse entre les arbres. Quand il fait sombre dans la forêt, le double, le frère, le garçon du monde d'en bas prend des graines et les jette à terre. Et quand les graines touchent le sol, elles éclatent en dizaines d'étincelles qui tourbillonnent et scintillent autour des garçons et éclairent la forêt. Ils avancent, ils regardent, ils cherchent. Cueille les graines, lance, scintille, éclaire.
Un extrait de Le collier porte-bonheur. Armel et Pepo Hodigan nous embarquent dans un voyage initiatique.
Les histoires que vous racontez sont des histoires traditionnelles, sont des histoires que vous inventez, ça vient d'où?
Alors il y a des... Les contes traditionnels, c'est difficile. Il y a des contes de collectage, il y a des contes trouvés dans des livres. Mais attention, il y a beaucoup de livres roumains, des roumains qui ont collecté, ou les voyageurs, c'est vraiment les pires des pires. Donc il faut essayer de remettre dans un contexte. Moi, je travaille aussi avec des ethnologues, enfin des gens qui sont là, qui ont recueilli des propos pour voir. Tu vois, là, on a travaillé sur la mythologie tzigane. C'était très, très complexe. Ça m'a demandé 10 mois de décortiquage, de réflexion.
Complexe. C'était quoi la complexité là-dedans?
La complexité principale, c'est que les collectages ont été faits par des curés.
C'est
et c'est ça la complexité. Voilà, il faut arriver à l'origine, quoi. Enlever tous les saints, tous les diables, tout ça, quoi. Et arriver à l'origine de... Parce que nous, on est plutôt sur la nature, quoi. Donc, on a des croyances. Ça se transparaît d'après les collectages, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, c'est vraiment... On trouve Saint-Pierre, on trouve Saint-Jean, tous les saints, quoi. Mais parce que c'était collecté par des rachats, enfin, des curés.
Et donc là, la complexité, ça a été de nettoyer un peu, de débarrasser.
Oui, pour retrouver le fil fondateur qui fait que pourquoi. Et dans cette cosmogonie, moi, ce qui m'importait, c'est de trouver cette naissance du voyage. Alors il y a tous les mythes, tout ce qui se passe, tu vois, cette création du monde chez nous. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a pris la route, le déclencheur, le pourquoi, tu vois, et pourquoi encore et encore. Voilà, cette liberté.
Parce que tous les deux, vous dites ce terme-là que j'ai entendu aussi hier, vous dites voyageur. C'est un terme vaste.
Ouais, c'est oui, c'est générique. Ouais.
C'est un terme générique qui dit simplement je marche, enfin, ou en tout cas je vais.
Ouais. Ouais. Je vais parce que même si les voyageurs ne voyagent plus, toi, nous, on a acheté un terrain, on a acheté une maison, aussi bien on est parti des années en Europe avec les enfants que les roulottes, mais c'était ponctuel. Il y en a beaucoup, ils vont travailler un peu comme ça, et beaucoup achètent des maisons et puis des terrains, on met la caravane devant, mais on est quand même voyageur dans le cœur. Il y a toujours cette petite musique qui fait qu'on n'est pas des sédentaires. On n'a pas la mémoire. Tu vois, chez moi, dans ma famille, il n'y a aucune mémoire de maison. Il n'y a pas d'objet qu'on s'est transmis. On a des histoires, on a des caractères, on a des... Comme ça, tu vois, une médaille, un bout de chiffon, une dentelle. Et on porte, si on l'a pas, c'est pas grave. On l'a dans le cœur. Donc ça, c'est vraiment... Ça change, on n'a pas d'histoire de... Et là, quand on a acheté, là, il y a marqué, quoi, sur la cheminée, 1700... 1786. Wow. Tu vois, j'ai dit, mais ma famille, elle était où en 1786?
famille, à elle, venait de Sibérie. Lui, en revanche, venait d'Italie, comme Buglione et Zavatta. Ils se sont rencontrés et cheminent ensemble depuis une trentaine d'années. Ils ont marié paroles et musique. Fille de paroles et de poésie, Armelle Audigan a d'abord narré des récits de la Méditerranée, sans trop oser parler de ses origines roms, jusqu'à ce que le conteur et écrivain Henri Gougaud lui dise de raconter avec ses racines. Il lui a alors fallu faire un long parcours initiatique en roulotte, aller de structure en structure, rencontrer des familles roms, écouter, parler, comprendre, partager et démêler la trame des récits de Ziganes, notés dans les livres, parfois avec beaucoup d'a priori, par les collecteurs.
Il était une fois un village. Dans ce village, il y a deux femmes. Elles sont comme des sœurs, des amies très sincères. Elles ont chacune des richesses. L'une, comme richesse, a les connaissances secrètes. Elle parle avec les animaux. Elle connaît toutes les plantes. L'autre, comme richesse, a des enfants, des garçons et des filles. L'une est marraine des enfants de l'autre. L'une veille sur les enfants de l'autre. L'une soigne les enfants de l'autre. Un matin, l'une s'est réveillée avec le désir d'avoir un enfant. Elle a cherché un mari. Mais son ventre est resté plat. L'une a été chercher l'autre et ensemble, elles ont cueilli les plantes, elles ont trié, séché, préparé les tisanes. Mais le ventre de l'une est resté plat. L'une, toute seule, a ouvert son livre des prières secrètes. Mais son ventre est resté plat. L'une est allée chez l'autre. Et elle a dit son désir d'avoir un enfant. Elle lui a dit comme elle voulait sentir son ventre devenir lourd, d'un enfant qui grandirait dans son amour à elle. Alors l'une a annoncé qu'elle allait partir. Elle voulait aller trouver la terre-mère, notre mère à tous, et lui demander de changer son destin. Et l'une a embrassé les enfants de l'autre. Les deux femmes se sont serrées très fort et se sont séparées. L'une est partie. Elle marche et elle chante dans le vent. Elle s'en va trouver notre terre-mère, notre mère à tous, pour lui demander de changer son destin. Longe les rivières, contourne les montagnes, traverse les forêts. Elle arrive tout au bout des terres, face au dernier des océans. Elle offre ses chants les plus secrets. Et l'océan lui offre un chemin. Elle passe de l'autre côté. Dans l'autre monde, un grand champ, les herbes hautes balayées par le vent. Elle marche. Elle s'en va sous l'arbre immense au bout du champ. Elle s'en va trouver notre terre-mère, notre mère à tous. Et elle lui parle. Je veux changer mon destin. Et la terre-mère, notre mère à tous, lui répond que ce n'est pas possible. Que ce qui est distribué à la naissance ne peut pas être changé. Elle lui parle longtemps à l'une pour adoucir sa souffrance et alléger sa peine. Et l'une s'en retourne, elle marche et elle chante dans le vent. Certains soirs, on l'entend chanter. Elle chante pour les enfants du vent. Atiek est toujours à côté du vieil homme. Il jette une poignée de bois sec dans le feu, les flammes sont plus hautes. Le vieil homme est toujours dans ses souvenirs. Il continue pour Atiek. Je ne suis pas restée seule longtemps. J'ai senti sur mes épaules le vent peser, devenir lourd, de plus en plus lourd. Comme s'il voulait m'enfoncer en terre. Je savais, c'était un conte. Alors je lui ai dit, « Je connais ton histoire et je vais te la raconter. »
C'est pas pour dire, au festival de Vassivière, Angel rencontre Armel et Pepo Odigan.
Tes parents, tes grands-parents voyageaient concrètement,
mes grands-parents voyageaient. On a vu sur les actes de naissance, ouais, ils sont arrivés de la Sibérie, ils ont traversé la Russie, ils sont passés dans les Balkans, ils ont fait la Pologne, ils ont fait l'Allemagne, la Prusse, enfin, ils ont croisé des guerres, ils se sont cachés dans la neige, et puis ils sont arrivés en France, ils ont fait des faux papiers, fausse identité. Le grand-père s'est rajeuni pour pouvoir être engagé dans une usine de sucre à Chalon-sur-Saône, tu vois, pour pouvoir être logé, avoir des tickets de logement et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment... Ouais.
Nous, on venait d'Italie, et donc c'est. Nous, moi, je suis de Forain, Sinti. Hein, Sinto, je suis. Hein. Donc, c'est famille Forain, circassien.
Sinto, c'est quoi
ça? Sinto, ça veut dire c'est comme en ouche, comme gitan, quoi. Donc, okay. Sinto, c'est Sinto italien. Zavatta, Buglione, ce sont des circassiens qui viennent d'Italie, quoi.
D'accord.
Donc, nous, c'était Parola, famille Parola. Et en fait, ils se sont sédentarisés juste avant la guerre, parce que cette époque-là, il y avait les mises en camp de puis surtout c'était les camps d'internement, et tous les nomades étaient internés. Donc à ce moment, il y a beaucoup de voyageurs qui ont pris des maisons. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, nous on était sédentarisés. Mais ça fait rien. Mon arrière-grand-père était en France. Enfin, parti en Italie et c'était il était saisonnier aussi. Hein. Moi j'avais un rémouleur dans la famille, des porteurs d'eau. Bon, on avait des petits métiers, nous, hein, on n'était pas très riches. Hein. On n'avait pas les grosses caravanes comme maintenant. Hein, mais...
C'était pas Bouglione.
Non, c'était pas Bouglione. Ou peut-être Bouglione à ses débuts. Mais... Et puis voilà quoi, donc ils sont installés en France et puis on est resté dans la zone de Toulon, hier, tout ça, vers là-bas.
voilà par ici comment on nous appelait. Oh, on nous appelle toujours. Allez-y, il y en a entre nous.
Allez-y, on fait, hein.
Les, bon et bien, parfait. Les.
Romanichel.
Romanichel, les Malouches, parfait.
Les voleurs de poules.
Voleurs de poules, exactement. Les voleurs de poules. Bon, je vais vous expliquer pourquoi on nous appelle les voleurs de poules. Moi, je ne sais pas, mais peut-être qu'un de mes ancêtres est passé par vous. Mais moi, je suis d'origine rome russe, alors bon, il faudrait déjà faire un détour. Parce que je suis pas bonne. Mais peut-être, hein. Peut-être. Mais bon, les côtés italiens, peut-être plus facile. Enfin bon, peut-être qu'un de nos ancêtres serait passé par chez
nous. La famille est grande, hein.
Il y a longtemps. Vous savez qu'il y a longtemps, tiraient les vieilles charrettes, les caravanes à chevaux, tiraient à main d'homme, enfin tout. Hein. Puis ils voyageaient, puis ils passaient. Ils passaient, puis ils voyaient bien des belles maisons, des grandes fermes, dans les cours de fermes, des poules.
Un très court extrait, c'était il y a quelques années au festival du conte en Périgord noir. Armel et Pepo s'amusent avec le public autour des stéréotypes qui habitent la culture tzigane. Armel et Pepo, depuis 30 ans, sillonnent le monde avec le but de faire connaître une culture ancienne, une culture d'oralité dont le cœur est l'âme du voyage. Ils racontent. Il y a bien longtemps, un jour, à l'occasion d'une fête tzigane, nous avons eu la chance de retrouver beaucoup de vieux tziganes. Gorgui, tzigane Calderache, que nous connaissions depuis longtemps, nous a dit « Quand vous racontez les histoires, j'entends ma grand-mère. » Ce jour-là, les vieux sages nous ont donné leur bénédiction. Allez de par le monde, allez dire notre culture. C'est pas pour dire Armel et Pepo Odigan.
Atiek entend qu'on l'appelle. Il ouvre les yeux. Les femmes sont tout autour de lui. Elles le poussent. Elles le houspillent. Elles le dépoussettent. Atiek, mais qu'est-ce que tu fais là? Atiek se relève et regarde tout autour de lui. Les guirlandes de fleurs, les rubans, elle tourne la tête. La roulotte, la porte s'ouvre, sa jeune épouse descend les marches. Elle s'approche de lui, il la regarde et dans ses yeux à elle, il voit qu'elle lit dans ses yeux à lui son courage d'être un homme. Il lui sourit, il va à sa rencontre et la prend par la main et ensemble tous les deux ils annoncent 3e jour du mariage, c'est le jour des histoires, installez-vous. Et tout le monde prend place. Comme le veut la tradition, c'est le père du marié qui commence. Le père de Atiek s'approche. Il se sert un verre de vin. Verse quelques gouttes pour la terre. Et il salue le ciel. Et il commence. Il était une fois. Il va dire toutes les histoires qu'il connaît. Et comme le veut la tradition, c'est le père de la mariée qui continue. L'homme s'approche. Atiek le reconnaît. C'est le vieil homme de la nuit. Il se sert un verre de vin, quelques gouttes pour la terre. Il salue le ciel. Atiek, en cadeau de mariage, je t'offre mes contes de la nuit. À ta santé, ma fille. Attiek se lève. Le verre de vin. Pour la terre. Pour le ciel. Et Attiek raconte toutes les histoires de la nuit. Il était une fois un village. Il était une fois. Et quand il termine, Attiek vide le verre de vin par terre. Elle prend la main de sa jeune épouse, monte les marches de leur roulotte, pousse la porte. Elles entrent. Elle détache ses longs cheveux. À la petite fenêtre du fond, il accroche le foulard. Il se couche. Et les corps se serrent et se resserrent, s'enroulent et s'entournent, la peau frissonne sous les baisers. Pour la première fois, Attiek aime sa femme. Tout autour d'eux, la nuit, le campement en fête. Tout le monde boit, tout le monde chante et tout le monde trinque. À ta santé, Attiek!
Le mariage d'Attiek. Trois jours d'un mariage tzigane. Un mariage pour devenir un homme. Un homme pour aimer une femme. Une femme pour donner la nuit. Et une nuit pour apprendre le courage d'être un homme. Avec Armel et Pepo Odigan. La musique, le conte. Est-ce que c'est la même langue ?
Est-ce que tu travailles sur un fond traditionnel ? Est-ce que tu écris ? Enfin, est-ce que tu inventes ?
Ouais, j'invente beaucoup. Je suis principalement en improvisation, pratiquement tout le temps. Donc c'est vraiment. C'est pour ça que je raconte avec ma musique, parce que mes notes sont des mots. Et mon travail, c'est générer des émotions par ma musique. Et en fait, notre travail à nous, depuis le début, c'est vraiment un gros travail, parole et musique, mais notre principal personnage, c'est quand même le conte. Donc Armel, c'est juste la parole et moi de la musique, on est juste des vecteurs, et en fait, on met tout en œuvre pour amener des émotions au public, et que, que ce soit le conte qui traverse ces gens-là, qui leur parle. Pas nous, pour ça, après, il y a des musiciens qui vont... Moi, je suis très critique envers les contes et musiques, parce que souvent, tu as un musicien qui veut montrer qu'il sait jouer, tout ça. C'est pas ça l'important, c'est juste les émotions.
Derrière les horizons balkaniques, pas très loin d'une ville, il y a un campement. Entouré de barbelés, à la porte, un panneau, défense de sortir. Tout au fond du campement, il y a un homme dans une caravane. Une caravane qui n'a plus de roues. Et ce matin-là, dans cette caravane-là, un homme se réveille. Il regarde tout autour de lui. Rideaux déchirés, coussins défrichis. Il soupire. Par la porte entrouverte, il voit l'horizon balkanique. Il se cale à l'ouverture de la porte de la caravane. Et ce matin-là, il regarde l'horizon balkanique. Là-bas. Et dans son cœur, une chanson, un refrain, des mots qui tournent. Là-bas. Et là-bas, si c'était le paradis? Là-bas, si c'était le paradis? Et l'homme marche dans le campement. Il voit des enfants qui jouent pieds nus dans la boue. Malheur d'enfant. Enfant de malheur. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Relève la tête. Soupire. Écoute ton cœur. L'horizon balkanique est là-bas. Là-bas, si c'était le paradis. Au milieu du campement, les femmes, jupes longues, qui traînent par terre, les femmes qui accrochent le linge. Femmes de malheur, c'est quoi cette vie? Accrocher le linge les jours de pluie. Malheur pour les femmes. Soupir. Et là-bas, là-bas, si c'était le paradis. Il marche. Il arrive à la porte du campement. Autour d'un feu, les hommes sont réunis. Hommes de malheur, restez là, à rien faire. Malheur pour les hommes. L'horizon balkanique, là-bas, là-bas, si c'était le paradis. Et ce matin-là, l'homme a franchi le portail du campement. Il s'en est allé sur la route de lumière, en regardant un point sur l'horizon balkanique. Et dans son cœur, la chanson. Hoppa! Si là-bas, c'était le paradis. Il avance à grandes enjambées. De chaque côté de la route, des arbres et les ombres qui s'allongent d'un côté et de l'autre et le soleil qui le réchauffe. Et là-bas, là-bas, si c'était le paradis. La route est longue, la route est longue, mais j'arriverai au paradis, au bout de l'horizon balkanique.
Au plus près des étoiles, le paradis, parce qu'il faut regarder le monde différemment chaque jour, à chaque instant, pour se laisser surprendre par l'espoir. Adaptation d'un conte traditionnel. L'entretien s'achève là, comme au début du voyage. C'est comme ça. Garder, conserver, faire patrimoine n'a jamais été l'ambition des voyageurs. Il faudra d'autres rencontres pour faire plus ample connaissance, et si ça vous a donné envie d'entreprendre le voyage et d'aller les écouter, alors c'est bien. C'est pas pour dire c'est fini pour aujourd'hui. Si cette émission vous a plu, vous pouvez le faire savoir. Vous pouvez aussi aller sur le site internet, découvrir ces 150 petites sœurs. Et vous pouvez aussi, sur la page Facebook de C'est pas pour dire, nous laisser des messages, des suggestions, des propositions d'émissions. En attendant, je vous dis au revoir et au plaisir.
A dream.